mettre des indicateurs de performance. Déjà, c'est très valable là. Mais on retrouve ça aussi au Canada, on retrouve ça aussi en Nouvelle-Zélande, on trouve ça, bien sûr, aux États-Unis réganiens, mais c'est un mouvement relativement général. Et un mouvement général qui va se développer également dans des institutions internationales qui vont devenir des très puissants relais de ces manières de penser. Je pense au Front monétaire international, je pense à la Banque mondiale, je pense à l'OCDE, qui vont être, si vous voulez, des endroits dans lesquels, finalement, s'échangent, s'élaborent des espèces de répertoires, vous voyez, de comment faire de l'action publique. Comment faire de l'action publique ? On échange des recettes et on met en circulation des recettes. Et ces recettes, elles circulent d'autant mieux des institutions internationales vers les gouvernements que les gens circulent. Je vous ai parlé de la LOLF tout à l'heure. Qui met en place la LOLF en France en 2000 ? La conseillère de Lionel Jospin qui met en place la LOLF en 2000, elle vient d'où ? De la Banque mondiale, après être passée par l'OCDE. C'est-à-dire que vous avez une circulation, vous voyez, des gens et des idées, finalement, qui passent d'expériences nationales à des institutions internationales, d'institutions internationales à des gouvernements. Donc vous avez une circulation, vous voyez, de ce répertoire d'actions de nouvelle gestion publique, etc., qui finalement infuse pour la plupart des États, à tel point qu'il est difficile aujourd'hui pour un gouvernement de dire « finalement, je m'en moque, je n'ai pas intérêt à le faire, ça ne m'intéresse pas ».
Le problème des effectifs dans la fonction publique,
TF1.
J'ai proposé de ne pas remplacer un départ sur deux.
5 février 2007.
Parce que je veux que les fonctionnaires soient mieux payés.
Nicolas Sarkozy.
Mieux formés, mieux considérés. Mais on ne peut pas continuer à augmenter le nombre de nos fonctionnaires alors même que nous avons l'endettement qui est le nôtre et le déficit qui est le nôtre. Et je dis d'ailleurs aux fonctionnaires de France, ceux qui promettent d'embaucher toujours plus de gens ne sont pas ceux qui vous augmenteront. Je préfère moins de fonctionnaires, mieux payés, mieux formés, mieux considérés, mieux respectés. Mais il va falloir faire des économies. Et ces économies sont parfaitement incontournables si on veut baisser les impôts et réduire la dette de la France. Parce qu'un pays endetté, c'est un pays qui n'est pas libre.
Je crois que ça, si vous voulez, c'est un mouvement donc, qui est un mouvement général. Mais il fonctionne en France sur le mode d'une transformation de ce que Pierre Bourdieu appelait la noblesse d'État, c'est-à-dire la haute élite administrative, se transforme à partir, grosso modo, alors dans toute la période que j'ai décrit, après-guerre, et notamment dans le bouquin, il y a Alain Garrigou qui a fait un beau texte, je crois, sur aujourd'hui des gens qui font l'ENA, donc l'École nationale d'administration, c'est-à-dire l'école qui donne accès, si vous voulez, aux postes les plus importants dans l'État.
Toute cette noblesse d'État.
Cette noblesse d'État. Aujourd'hui, 30% des gens qui préparent l'ENA viennent d'HEC, des hautes études commerciales. C'est-à-dire qu'ils passent à l'ENA, si vous voulez, pour avoir une sorte de tampon, si vous voulez, de légitimité supplémentaire d'État. Et évidemment, si vous commencez votre carrière à HEC, ce n'est pas exactement la même chose que si vous commencez votre carrière à l'ENA en vous disant « je vais servir l'État, le service public, etc. » Si vous faites des hautes études commerciales, c'est parce que vous avez dans la tête des modes de fonctionnement et des envies qui sont les envies du monde économique, le plus simple. Et on va voir donc, comme ça, se diffuser dans la haute fonction publique, des gens qui viennent du privé, qui vont donc passer du privé au public, du public au privé. Vous avez une accélération de la circulation entre public et privé.
Les pantoufles.
Alors, auparavant, le pantouflage, c'était un haut fonctionnaire qui, après 20 ans ou 25 ans de carrière, passait au privé. C'était ça. Donc, grosso modo, il servait l'État pendant 20 ans. Et au bout d'un moment, il disait « bon, maintenant, je peux négocier mon carnet d'adresses ». Et il prenait un poste dans une banque, dans une grande entreprise, où il était bien payé. Aujourd'hui, le pantouflage, c'est plus cette forme-là. Aujourd'hui, c'est une circulation accélérée, très rapide, d'une administration à une entreprise privée, d'une entreprise privée à une entreprise nationale, d'une entreprise nationale à un cabinet ministériel, et retour. Et ces gens qui circulent très rapidement, je dirais, contribuent là aussi à diffuser dans les administrations publiques le répertoire du management venu de l'entreprise privée, l'obsession pour les coûts, l'obsession pour la rentabilité, ce genre de choses qui, auparavant, je dirais, n'étaient pas au cœur de la mission de service public. Et je crois que dans les reportages que vous êtes allés faire, je crois que ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'on a deux logiques qui s'affrontent. On dit, être un postier, c'est aussi s'apercevoir, s'assurer que, grosso modo, les personnes âgées de la région sont toujours vivantes, qu'elles ont un contact humain avec une institution. Bon, ça, évidemment, pour quelqu'un qui a les yeux fixés sur la courbe des coûts et des bénéfices, évidemment, le coût que représente le fait qu'un postier ait distribué une lettre au fin fond d'un village, c'est un coût démesuré par rapport à ce que ça rapporte, le prix d'un timbre. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a appelé ça démantèlement, c'est que la construction de l'État, telle qu'on l'a vue, c'est un processus lent, très progressif, qui a protégé certaines activités des logiques marchandes. L'éducation, bien sûr, la santé, mais également la poste, les télécommunications. L'idée d'un service public de télécommunications, c'était que tout le monde ait accès, où qu'il habite, à la même possibilité de communiquer, d'avoir un téléphone. Évidemment, ça coûte plus cher de mettre un téléphone